cette conférence religion politique immédiate et donc la cinquième de l'année pour Ratis des Chemins. Jean-Claude Petit est un journaliste, ancien directeur du journal La Vie, engagé dans un mouvement aussi chrétien de la Méditerranée dont il vous dira quelques mots. Et je pense que je vais lui laisser tout de suite la parole. Si jamais vous étiez amené à sortir en cours ou à la fin de la conférence, je me permets de vous rappeler qu'il y a des corbeilles et que notre association n'est pas subventionnée. Donc nous avons des frais pour la conférence et puis également, quand nous avons de l'argent, nous achetons des livres qui sont déposés à la bibliothèque municipale de Belfort. Donc si vous pouvez penser à, disons, l'ordre de grandeur d'une salle de cinéma, c'est bien. Donc les corbeilles, vous les trouverez à la sortie de la salle.
Merci beaucoup, merci bien. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous, bonsoir à tous. Je vous rassure tout de suite, ce paquet de livres n'est pas pour vous lire toute la soirée. C'est simplement, ce sera pour illustrer mon propos à certains moments de mon intervention. J'espère qu'elle ne vous endormira pas trop. Sur un sujet, donc, sur un sujet qui peut paraître peut-être un peu abstrait, qui peut paraître au contraire un peu proche, qui peut paraître lointain ou qui peut paraître intellectuel pour d'autres, peu importe. Ce qui me semble le plus important, c'est que, au fond, c'était pas prévu comme ça, mais aujourd'hui, dans le contexte que nous sommes, depuis le 7 janvier, mais sans doute depuis plus longtemps encore, mais on n'y avait pas pensé comme ça, et le 7 janvier nous a rappelé un peu à l'ordre, nous avons aujourd'hui à réfléchir, jusqu'à réfléchir sans doute, à nous demander comment nous pouvons articuler peut-être ces deux ou ces trois exactement réalités, qui sont aussi trois concepts, les médias, la politique ou le politique, et les religions ou la religion. Je vais essayer avec vous de montrer comment il me semble qu'il y a aujourd'hui dans ce trio de concepts, de réalité en pleine actualité, donc comme je disais, et donc nous intéresse au plus haut point, ils ont quelque chose de commun. Ils ont même plusieurs choses de commun. Et c'est ce que je voudrais tenter de vous démontrer, à quel point ces trois réalités que sont le monde médiatique, le monde politique et le monde religieux, en quelque sorte constituent ensemble comme le tissu de notre vie sociale. Voilà, ce sera mon propos. Plus ou moins bien, c'est autre chose. Je vais essayer de m'en tenir à une description un peu de ces trois réalités et de voir comment elles ont aujourd'hui des choses et comment elles ont depuis toujours des choses en commun, comme un fil directeur, et qu'est-ce que aujourd'hui ce lien qu'elles ont entre elles, ces trois réalités-là, les médias, la politique et la religion, et les religions, est aujourd'hui mis en cause. Donc dans une première partie, je vais donc essayer de dire qu'est-ce que médias, religion et politique, je me répète, ont en commun, au-delà, et bien entendu, au-delà de leur identité propre. Parce que quand je dis qu'elles ont des choses en commun, ça ne veut pas dire qu'elles se ressemblent.
Bien entendu, c'est une béaba. Elles ont en commun, d'abord et premièrement, et il faut le dire fort, parce que ça va être un fil conducteur important pour la critique qui viendra après, dans la conversation, peut-être dans notre ensemble après, elles ont en commun le service du bien commun. Elles ont en commun, en quelque sorte, on pourrait dire aujourd'hui, le développement, la construction et le développement du vivre ensemble, puisque c'est le mot un peu à la mode. Je préfère dire parce que c'est ça qui leur est commun directement et officiellement, le service du bien commun. Et je voudrais commencer par vous lire à cet égard un texte qui date de 1972, qui est absolument, je crois, philosophiquement et théologiquement juste, et qui est inattendu. Ils veulent certainement en surprendre quelques-uns d'entre vous, parce qu'il ne correspond pas à ce que nous voyons et ce que nous constatons aujourd'hui. Il ne veut pas dire que ça n'est pas vrai. Ce texte émane d'une assemblée plénière de l'épiscopat français à Lourdes en 1972 sur une thématique qui avait retenu l'assemblée des évêques à deux reprises, deux années successives, en 71 et 72, sur les chrétiens, la politique et l'avenir du monde. Ce texte, d'ailleurs, en fait, ce document qui a suivi l'Assemblée, qui en est donc qui l'a officialisé des points de vue épiscopaux, était à l'époque pour faire comprendre, faire vivre aux catholiques français le pluralisme politique, puisque l'histoire avait conduit longtemps après 1905, même un certain avant, et les querelles autour de la séparation de l'Église et de l'État, et d'un certain nombre de mouvements, notamment des affaires de l'Action française, les catholiques français votaient quasiment exclusivement à droite. Et au fur et à mesure qu'il y a eu, après la fondation de la jeunesse ouvrière chrétienne, et de l'Action catholique, et de l'arrivée des prêtres ouvriers, et de tout le travail ensuite des catholiques français engagés dans la construction de l'Europe, et qui étaient des gens qui n'étaient pas forcément uniquement de droite, mais aussi du centre, d'une forme de démocratie chrétienne qui était le MRP à l'époque, et peu à peu aussi des socialistes. Et donc, un certain nombre de catholiques souhaitaient exprimer leur vote en faveur de ces réalités nouvelles. Mais c'était pas clair, et donc les évêques, c'était pas clair pour eux que ce soit légitime dans leur foi, et les évêques ont tenu à éclaircir cette question: comment dans le monde catholique on peut en effet voter comme on le souhaite. Et c'est un extrait de ce document que je vais vous lire, qui ne porte pas sur ces questions du pluralisme, mais qui porte simplement sur la politique. Qu'est-ce que c'est que la politique, vu du point de vue donc des évêques de France, mais je crois que ça vaut en effet au-delà bien même de la religion. Beaucoup de chrétiens sont sensibles aux ombres et aux pesanteurs de l'action politique. Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux, ça c'est moi qui commence. D'autres inclinent à tout en attendre. Ces derniers n'oublient pas que si la politique, comme toutes les activités humaines, est soutenue par l'espérance, celle-ci ne peut se ramener à un terme de combat politique. Écoutez bien ce qui suit, vous allez voir. Ceux qui soupçonnent la politique d'infamie s'en font souvent une idée courte. Au-delà, ou plus exactement jusqu'à travers ses frivolités, jusqu'à travers ses défaillances et ses corruptions, l'action politique a un fantastique enjeu. tendre vers une société dans laquelle chaque être humain reconnaîtrait en n'importe quel autre être humain un frère et le traiterait comme tel. La société des hommes n'est-elle pas appelée à exprimer à sa manière le mystère de la Trinité? Aussi, tout chrétien doit-il se sentir concerné par la politique? Chaque fois qu'il le peut, il doit être un citoyen actif et il ne doit jamais minimiser les résultats de son action. Dans les sociétés actuelles, les lieux où se joue le devenir se multiplient. On peut agir au niveau de l'entreprise, de l'atelier, de la région, de la commune, du quartier, par l'intermédiaire d'un syndicat, d'un parti, d'une association, d'un conseil de parents d'élèves, d'une association de consommateurs. Cette exigence est d'autant plus impérieuse que le champ de l'action politique s'élargit de plus en plus. Donc, en effet, la politique apparaît bien à travers ce texte. On ne peut pas négliger, on ne peut pas les soupçonner de l'avoir, écrit. Pour la bonne cause, simplement, bien entendu, ils se sont référés à une vision chrétienne exprimée par la théologie des évêques de France à cette époque. Cette noblesse de la politique, elle est aujourd'hui, évidemment, mise en cause fortement dans notre société, on le sait bien, le degré de nombre, la vision, de plus en plus forte des abstentions, la critique permanente qui est faite à la politique, non sans raison, dans un certain nombre de cas, on va y revenir, et on va essayer de savoir pourquoi. Tout ça fait qu'aujourd'hui, la politique passe un mauvais quart d'heure, si j'ose dire. L'action politique. Ça n'enlève rien à ce qu'elle est dans sa réalité, à ce qu'elle devrait être. Et dont les citoyens doivent prendre conscience de ce qu'elle est. Et non pas se contenter de la regarder avec défaveur. Parce qu'il y a derrière des enjeux, qui sont en effet des enjeux du bien commun. Et en ce sens-là, je voudrais juste dire, citer quelqu'un de beaucoup plus actuel, puisque là nous étions dans les années 70, c'est quelqu'un que moi personnellement j'apprécie beaucoup, et je pense que nous sommes nombreux à le faire, qui est Monsieur Jean-Paul Delevoye, qui est aujourd'hui président du Conseil économique, social et environnemental, et qui a été, à un moment donné, médiateur de la République, autant que je me souviens. Et il est interviewé dans une revue ici, et il dit quelque chose de fort aussi, qui correspond, qui est la conséquence de ce que je viens de vous lire de la part des évêques, la noblesse de la politique est de transformer l'impossible en possible. Vous voyez, donc le curseur est mis très haut. Le curseur est mis très haut au niveau de ce qu'est le politique ou la politique. Il dit ceci, la conquête du pouvoir peut être quelque chose d'assez exaltant lorsqu'elle est au service d'une cause. Et je vais citer des exemples positifs dans le monde négatif dans lequel nous nous trouvons. À côté des pages noires de la démocratie, il y a de formidables pages ouvertes par des engagements politiques liés à des causes, comme la révolte polonaise dans les années 80, ou l'action d'un Martin Luther King. Alors oui, gardons en tête la noblesse de la politique, qui est de transformer l'impossible en possible, le court terme par une vision à moyen terme, et d'élaborer un projet de société. Voilà, c'était le politique, donc, et qu'il fallait rappeler avant de voir, en effet, comment cette approche de la politique est aussi intéresse aussi évidemment les médias, et on va voir aussi les religions. Je recherche mon papier pour l'instant qui est là. Donc
le premier, on a commencé par la politique. Passons maintenant, si vous voulez bien, au monde médiatique et plus précisément à la presse et aux journalistes. Car les médias ne se réduisent pas à la presse et aux journalistes, il y a d'autres médias évidemment. Alors, qu'ont-ils à voir, la presse et les journalistes, avec le bien commun, me direz-vous, puisqu'il s'agit de ça, le service du bien commun. Eh bien, leur vocation à eux, c'est en quelque sorte de faire vivre la recherche du bien commun. Comment, me direz-vous? Eh bien, par l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire connaître les initiatives, les mises en œuvre, les lois, l'organisation sociale, l'organisation politique, les réactions à tout ce qui est mis en œuvre par le politique au service du bien commun, voire les oppositions que ce travail pour le bien commun rencontre évidemment chez les citoyens. Autrement dit, le travail des journalistes au niveau du politique rejoint le bien commun dans la mesure où les journalistes assurent ce qui est un droit pour vous et pour moi, le droit d'être informé. Pourquoi le droit d'être informé? Pour d'être des citoyens bien au fait de la recherche du bien commun. Parce que ça nous concerne, nous, le bien commun, nous tous. Et que donc, en tant que citoyens, nous sommes concernés par son exercice, par l'information qui doit nous être donnée pour faire notre jugement de citoyens dans une démocratie. Autrement dit, l'information n'est pas une marchandise, l'information est un bien culturel. Elle s'appuie sur le droit absolu, fondamental, qui appartient à la Déclaration des droits de l'homme d'être informé pour être des citoyens actifs à faire vivre le bien commun, parce que s'il est décidé et mis en œuvre par les politiques, il est aussi notre propre vie de citoyen à faire exister, c'est ça le vivre ensemble, hein. Et nous avons besoin pour cela d'être informés. Et du coup, les journalistes ont le devoir de nous informer. C'est tellement vrai que si nous avons le droit d'être informés et eux le devoir de nous informer, c'est tellement vrai que c'est transcrit dans plusieurs chartes de l'UNESCO qui ont vu le jour dans l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale, et dont vous devez prendre connaissance, et qui en quelque sorte constitue le fondement éthique du travail journalistique. C'est ainsi que les chartes, on va pas vous lire tous les textes, mais les chartes rappellent que les journalistes ont à donner une information qui, dans le respect des faits, dans le respect des personnes, va servir à la construction du vivre ensemble, à la construction de la paix dans la vie internationale, au respect des droits de l'homme autant que possible. Font-ils ce travail? Le font-ils bien? Le font-ils moins bien? On en parlera tout à l'heure. Mais leur travail, c'est ça qu'ils ont de commun avec le politique, avec le monde politique, c'est de rendre vivant ce travail, cette recherche, cette mise en service, en quelque sorte, cette mise dans le concret, cette réalité concrète du bien commun. D'où évidemment, le fait, c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que vous allez lire tout à l'heure dans ce que les médias et les politiques et les religions ont aussi en commun, c'est-à-dire aussi leurs difficultés d'aujourd'hui, les uns et les autres. Mais avant, je dois aussi parler des religions, alors, qui sont aussi, elles-mêmes, sous une autre forme, au service du bien commun. Elles le sont
en distinction du politique, même si parfois elles avancent sur ce terrain, peut-être trop, même si d'autrefois elles n'avancent pas suffisamment sur le terrain. Pourquoi ? Elles ont le bien commun, en fait, il faut bien comprendre, et je crois que je ne cesse de le répéter depuis 10 minutes, que c'est une valeur. C'est une valeur, c'est la valeur de notre vie ensemble. Une valeur. Nous ne sommes pas dans un niveau marchand, nous sommes dans un niveau, en quelque sorte, philosophique. Et la valeur en question, elle implique l'être humain, elle nous implique nous. N'est-ce pas ? Elle implique, au fond, une vision de l'homme. C'est plus qu'une vision, une approche de l'homme dans ses profondeurs. Et donc, le bien commun a besoin, pour servir l'être humain, aussi d'en nourrir le sens, de discerner les valeurs qui le fondent. D'une certaine manière, cela appartient quelque part aux philosophies, à des philosophies, mais aussi aux religions qui proposent des cercles de valeurs à leurs fidèles. En quelque sorte, parce que les religions donc sont des pourvoyeuses de sens, on peut admettre ou ne pas admettre, que des philosophies peuvent aussi apporter des valeurs de sens, c'est pas réservé aux religions, entendons-nous bien, mais en tant que telles, les religions sont, dans le respect, encore une fois, de l'indépendance du politique et de l'indépendance des informations, une structure, une réalité qui apporte ses qualités propres au service du bien commun. Et là, je veux m'attarder à vous lire quelque chose qui me semble très intéressant et tout à fait récent. Il s'est trouvé que pour le musée des Confluences à Lyon, qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps, je vous conseille d'aller voir, et qui est un musée consacré au vivre ensemble de l'humanité, on m'a demandé d'interviewer pour une des expositions des hommes et des femmes ou femmes de religion, pour voir comment dans l'histoire de l'humanité, puisque le musée se promène dans toute l'histoire de l'humanité, voir comment l'humanité s'est tout le temps préoccupée de son vivre ensemble, à sa manière, à chaque époque, sa manière, d'interviewer donc, et donc sept personnalités religieuses différentes donnent un petit témoignage pour dire comment chacune dans leur propre confession ou religion, ils voient ce qu'elle peut, cette foi, cette religion, apporter au vivre ensemble, apporter au bien commun. Parmi ces personnalités, il y en a une que vous connaissez déjà, je crois qu'on a précédé ici il y a quelques semaines, notre ami Haleb Fenscher. Il y a aussi le fondateur de la communauté de santé de Gido, professeur Andrea Riccardi, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Et là, nous en avons interviewé sept, et je voudrais vous lire ce que dit ici, notamment, une jeune femme rabbin, dans la communauté juive du 15e arrondissement de Paris, Madame Delphine Orwiller. Elle dit ceci, une longue interview excellente qu'elle m'a donnée. Pour beaucoup, aujourd'hui, le sens de la laïcité en France, c'est d'éclipser le religieux de la sphère politique. Moi, je pense qu'il pourrait en être autrement. Si, et à condition, que les religions soient capables d'exprimer un projet qui soit un projet de vivre ensemble, un projet de tolérance à l'autre. Et on rentre dans le champ des valeurs, hein, des attitudes. À condition que les religions soient capables d'exprimer un projet qui soit un projet de vivre ensemble, un projet de tolérance de l'autre, un projet éclairé, un projet qui nourrisse un projet politique de rencontre avec l'autre. Parce que c'est pas simple la rencontre avec l'autre. Ça suppose aussi une dimension personnelle forte, une nourriture, l'enrichissement.
Si les religions ne sont pas capables de développer un discours qui soit un discours du vivre ensemble, d'acceptation de l'autre, et ne sont pas capables de nourrir un projet politique de rencontre, de nourrir toujours un projet politique de rencontre, alors effectivement, mieux vaut les garder à distance d'un projet politique. Mais je pense qu'il pourrait en être autrement. J'ai envie de croire que les religions pourraient non seulement être des présences non menaçantes, mais des présences enrichissantes. Des présences non menaçantes, mais des présences non pas des présences menaçantes, c'est bon, mais des présences enrichissantes, de nourriture, de valeur. Voilà, je me suis attardé un peu sur cet ensemble parce que il me semble qu'il était important de distinguer, bien sûr, le travail propre, les responsabilités propres de chacune des structures dont nous parlons ce soir, mais en même temps de voir qu'elles ont un travail, chacune dans leur domaine, qui est un travail au service du bien commun, chacun à sa place. Alors, elles ont aussi en commun, deuxième temps de mon exposé ici, devant vous, c'est que elles sont aussi affrontées en même temps. Elles ont cette grande mission, le service de bien commun. Elles sont aujourd'hui, toutes les trois, affrontées à de graves difficultés. Trois difficultés qui les touchent toutes les trois. Elles sont affrontées à la crise du monde d'aujourd'hui. Il est un monde aujourd'hui, comme nous le savons, globalisé et qui l'est de plus en plus. Alors on pourrait dire qu'elles sont affrontées à cette crise, mais on peut dire aussi, d'une manière plus positive, qu'elles sont affrontées à la mutation de ce monde, au sens de notre manière de vivre. Alors, nous savons que cette crise, pour faire vite, hein, pour y constater non seulement une, mais sans doute deux ou dix conférences, hein, à la crise, nous savons bien que la crise que nous vivons aujourd'hui d'abord, dans sa dimension économique et sociale, qui marque notre vie collective et personnelle, nous ne savons que trop, qui est une crise à la fois nationale et internationale, et nous savons tous aussi en même temps, cette crise est liée à une mondialisation en train de se développer depuis une trentaine d'années et qui est une mondialisation qui est née sous la domination financière, une domination qui a permis des progrès technologiques considérables, c'est sans doute positif pour l'humanité, mais qui a entraîné aussi des conséquences beaucoup plus sans doute importante encore sur le plan sociétal, sur le plan de nos sociétés. Autrement dit, nous savons bien, si nous ne le savons pas, il faut que nous commençons à nous le mesurer, que la crise qui secoue notre monde, notre pays, mais aussi notre monde, est bien plus profonde et qu'on pourrait la résumer en disant qu'il s'agit d'une crise du sens. Ou, si on veut dire encore plus, il s'agit d'une crise anthropologique, c'est-à-dire une crise de l'homme lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en un langage plus simple, que la crise que nous connaissons est la crise de la montée en puissance de l'individu. De l'individu. Ce que les sociologues ont appelé, pour ne pas dire la montée de l'individualisme, la montée de l'individuation, non plus barbare. Mais qui fait qu'aujourd'hui, l'individu se fait le centre du monde, le centre lui-même, de son propre monde. Là, je vais vous lire prendre aussi un témoin, quelqu'un d'autre, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le professeur Andrea Riccardi,
Donc il y a le fondateur de cette communauté de santé de Gigio, qui aujourd'hui sont 70 000 membres en Italie, mais qui rayonne à travers le monde entier au service des plus pauvres, et qui est aujourd'hui reconnu par l'Organisation des Nations Unies qui travaille pour la paix dans un certain nombre de pays. Et Riccardi, un ami du pape François, écrit ceci. Nous vivons aujourd'hui une étape délicate de la vie des hommes et des femmes de notre temps. Quelle est cette étape? Il s'agit presque d'une mutation anthropologique qui se réalise lentement mais inexorablement, qui a commencé depuis plusieurs décennies, mais qui connaît aujourd'hui une grande accélération. C'est la grande scène du monde globalisé. L'Asie devient de plus en plus et inexorablement individuelle. Les formes de vie communautaire, familiale et solidaire sont toujours plus secondaires par rapport à la vie individuelle quand elles ne vont pas jusqu'à s'estomper ou disparaître. Même si ce changement se produit sans rupture apparente, c'est un changement radical, surtout pour les jeunes et les jeunes adultes. Et Riccardi poursuit un peu plus loin. Du reste, bien des réalités collectives sont entrées en crise, se sont resserrées ou ont disparu. Il suffit de penser aux partis politiques. Aujourd'hui, on fait de la politique devant la télévision, en assistant aux talk shows, plus en participant aux discussions dans les sections des partis, aux conventions, aux manifestations. Les rêves collectifs de rédemption politique, cultivés pendant plus d'un siècle par les mouvements socialistes, se sont évanouis. Après-guerre, le salut politique du prolétariat s'était présenté comme le grand défi dans le Paris du cardinal Suard, qui avait envoyé les prêtres ouvriers témoigner d'un autre salut. La réalité, c'est que l'on vit aujourd'hui de plus en plus seul. Cela ne veut pas dire que l'on vit de façon asociale, mais sans la stabilité des liens et avec un filet social de protection moindre. L'esprit du temps consiste à croire que l'on se sauve seul et qu'être seul, ce n'est pas si mal. Or, on ne plaisante pas avec l'esprit du temps. Le père de la psychanalyse des profondeurs, Carl Gustav Jung, écrivait « L'esprit du temps est une religion à caractère irrationnel, mais qui a la propriété ingrate de vouloir s'affirmer comme critère de vérité, et qui prétend avoir pour soi toute la rationalité. Le message implicite de l'esprit du temps, tel qu'il est véhiculé par les médias, par l'éducation, par les expériences, les échecs et les succès vécus par tout un chacun, se résume à l'idée que l'on vit et que l'on se sauve seul. Alors évidemment, vous l'aurez compris, cette crise dans laquelle l'individu prime, et compte même plus le fait qu'il prime, il veut d'abord son autonomie totale, touche le cœur de la vie politique. Il touche le cœur de la vie politique parce que le service du bien commun s'élargit et en même temps devient de plus en plus difficile à l'heure de l'individualisme. Et dans une société marchande, il fait de l'individu contemporain de plus en plus un consommateur. Donc il va attendre du monde politique ce qu'il attend de son supermarché, de plus en plus. C'est-à-dire qu'on lui donne les solutions. accorde le bonheur auquel il a droit, lui, l'individu. Alors évidemment, ce sont des phrases qui généralisent un propos, hein. Et vous comprenez bien ce qu'elles veulent dire. Et donc, les responsables et ça va rendre le travail de recherche du bien commun extrêmement difficile, de plus en plus difficile, puisqu'il va se heurter à une collection d'individus qui se prétendent en effet de plus en plus autonomes et qui n'ont donc pas d'intérêt personnel à se préoccuper de la vie de l'autre à côté. Ce sont les propos de Ricardi illustrés à ma manière. Mais c'est d'autant plus important, cette crise-là, qu'elle touche non seulement les citoyens que nous sommes et qui devenons de plus en plus des consommateurs plus que des citoyens, qu'elle touche aussi le personnel politique, qui à son tour va tomber dans l'individuation ou dans l'individualisme. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, si j'ose dire. Encore que. Mais que, du coup, les égaux, le chapelet des égaux auxquels nous assistons, de nos personnels politiques, ou que ce soit, parce que ce n'est pas propre seulement à la France, hein. On pourrait parler de pays voisins, où, en effet, le personnel politique est pris lui-même dans la nasse, de la crise. Il touche l'être humain. Et qui fait qu'aujourd'hui, en effet, l'homme lui-même et le système dans lequel il a organisé jusqu'à présent la vie est menacé. C'est le sens des avis répétés et des appels au changement de pape François. Nous vivons dans une culture de l'indifférence. C'est l'expression même du pape François. Et il ajoute même, quand il évoque le monde des plus pauvres, des torturés, des enfants massacrés, dont on n'aime pas entendre parler, des enfants soldats, des centaines de mille à travers le monde, des enfants maltraités, des enfants qui crèvent de faim, combien par minute. Il appelle la culture du déchet. Mon corps, s'il en est. Donc, dans le personnel politique et les citoyens, ensemble, sont en quelque sorte, pour l'instant, un peu victimes, en tout cas, touchés par le mal de la crise dans ce sens-là. Mais, ils ne sont pas les seuls. C'est les hommes politiques et nous, les citoyens, nous ne sommes pas les seuls. Parce que cette crise, elle touche aussi les religions, qui ont d'abord beaucoup de peine à comprendre le monde globalisé qui nous est arrivé et qui continue de arriver à toute vitesse au milieu de nous. Elles ont de la peine à le comprendre, elles ont de la peine à y entrer. À partir du moment où l'individu contemporain souhaite donner seul le sens à sa propre vie, d'une certaine manière, la mission des religions devient de plus en plus difficile. Puisqu'elle est nourricière de sens, que l'individu contemporain n'en a plus de ce sens-là. Il veut donner sens à sa propre vie lui-même. Mais les religions ont une autre difficulté, c'est que face à ce monde qu'elles ont dans lequel elles ont de la peine à se mouvoir, qui n'est pas leur monde, ce n'est pas le nôtre non plus, mais bon, c'est comme on peut, mais qui n'est pas le leur en tant que structure, en tant que collectif. Alors, elles ont tendance à se réfugier dans la doctrine, dans leur doctrine, et à s'y emmurer en forteresse. D'où le fait, n'étant pas à l'aise dans la phase de cette crise, elles vont pas s'apercevoir qu'elles sont prisonnières d'un certain nombre d'extrémisme qui vont se saisir d'instruments religieux pour faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire d'utiliser le religieux au service de leur propre cause, c'est-à-dire au service aussi de leur propre ego. Il fait souvent dire d'ailleurs que l'intégrisme religieux est d'abord un intégrisme politique. L'instrumentalisation du religieux, et de ce qu'on veut, ce qu'on pique dans le religieux, pour servir sa propre cause, sans se préoccuper du contenu du message, sans absolument s'occuper, et allant même à l'encontre du message religieux. C'est le cas des extrémistes musulmans, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils ont piqué quelque chose de l'islam pour se justifier personnellement de la sale besogne, tragique besogne, inhumaine besogne qu'ils vont faire. Ce n'est pas contre l'islam, cette manière, si c'est propre, ce qui se passe aujourd'hui, mais je veux dire cette mainmise d'individus sur le message religieux touche toutes les trois monothéismes et, beaucoup d'autres religions, non, au-delà des monothéismes. Aujourd'hui, est traversé par des extrémismes qui menacent aujourd'hui de balancer l'islam des mosquées à Jérusalem. C'est un juif qui a tué le premier ministre Rabin qui venait de signer des accords de paix pour sa propre vision à lui des choses. Donc, qui a utilisé la religion pour tuer quelqu'un, ce qui est absolument le contraire du judaïsme. Mais nous avons aussi, nous catholiques, connu des extrémismes religieux. Nous avons connu un certain lefebvrisme, excusez-moi, mais qui a tenté bien sûr de s'en prendre au renouveau de l'Église à travers le Concile, et qui n'a pas craint d'être soutenu par les dictatures latino-américaines de M. Pinochet, de M. Videla et des responsables de l'époque brésilienne. Et qui a essayé de mettre et de prendre en otage une partie de la population. Donc, au fond, les religions sont affrontées alors qu'elles ont un travail de nourriture du sens à donner au bien commun, elles sont affrontées à leurs propres intégrismes, à leurs propres extrémistes, sans doute en partie, mais enfin bon, ce serait plus long, ce serait pas une autoconférence, en partie parce qu'elles se sont trop repliées sur leur propre doctrine au lieu d'écouter et d'essayer d'écouter. Parce que, au fond, tout ça se résume à une espèce de difficulté, sans doute la crise augmente, hein, parce que elle nous, en plus c'est une crise qui nous pousse dans à toute vitesse vers le temps ne compte plus, on est toujours dans l'immédiat, et on est toujours dans la vitesse, vous savez bien, hein, c'est un temps de la société marchande a besoin sans arrêt d'avancer, et donc la difficulté d'écouter aujourd'hui est grande, mais en même temps, écouter est une nécessité absolue, et pour les politiques, et pour les médias, avant de parler, d'écouter, ou de regarder ce qui se passe, tellement on va vite de nous dire parfois des erreurs tragiques, c'est-à-dire d'annoncer la mort de M. Martin Bouygues, alors qu'il n'est pas mort, le pauvre. Vous voyez un petit peu où on peut en arriver, je ne dis pas qu'on arrive toujours, mais où on peut en arriver. Parce que ça va de plus en plus vite, parce que c'est ça, la société aujourd'hui, de marchand dans laquelle nous sommes. Alors, elle n'a pas que des inconvénients, je ne voudrais pas que vous croyiez ça, je ne suis pas pessimiste par nature, mais je pense qu'il faut que nous mesurions à quel point cette crise touche à la fois les trois réalités dont je viens d'essayer de vous parler, et et ont ça en commun. Elles ont en commun d'être attaquées de l'intérieur, en quelque sorte, par la crise anthropologique qui est en train de se développer dans notre propre monde globalisé. Quand après les religions, et pour en finir avec ce commun qu'elles ont, ce mal commun qu'elles ont entre elles, les trois réalités, j'en viens aux médias. Et, alors eux, c'est encore autre chose, ils ont été victimes de la crise autrement. Ils ont été victimes de la crise il y a déjà un moment, grâce au progrès technologique que la mondialisation, car elle n'a pas que du mauvais, nous apporte. La mondialisation a permis et permet aujourd'hui, à travers ces progrès techniques, d'améliorer par exemple les qualités propres de la médecine, aide à notre santé, aide à notre alimentation, etc. C'est toujours développé, on pourrait développer longtemps les bienfaits aussi d'un monde qui a été un monde de progrès pour au moins une partie de l'humanité, pas pour toutes malheureusement, on le sait bien. Les médias, eux, ont bénéficié d'une autre formidable mutation et enrichissement technologique. Il s'agit de la technologie de la communication. Il y a, on repère à peu près 25 à 30 ans, la fibre optique en a été un exemple, mais il y a eu des progrès considérables dans les moyens de la communication dont nous bénéficions aujourd'hui à travers l'ordinateur et les portables, etc. Et Dieu sait si ça va vite, et Dieu sait si ça se développe. Et le phénomène des portables est aussi un phénomène de l'individuation. Hein. Vous savez, quand vous êtes à Paris et que dans le métro vous ne voyez plus que des portables, ça vous impressionne quand même. Hein. Et que vous les entendez aussi. On est vraiment dans le monde de l'individuation, je vous le promets. Le plus tranquille, la belle soirée, c'est déjà encore que c'est pas trop difficile. Mais il y en a aussi. Oui, ça, j'imagine. Je pense bien. C'est venu jusque-là. Oui, oui, ça vient partout. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé quelque chose de très important pour les médias. C'est-à-dire que les grandes sociétés capitalistiques, après le temps de l'industrialisation, se sont rendues compte qu'elles détenaient, avec les progrès techniques de la communication, un moyen formidable de gagner de l'argent et de maîtriser les esprits. Bon, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais d'apporter de la distraction au peuple. Au pluriel. Et donc, les grandes majors capitalistiques américaines, anglo-saxonnes, australiennes, canadiennes, anglaises, d'autres, un peu moins les Français à l'époque, ont investi considérablement dans la construction de ce qu'on appelle les tuyaux. C'est-à-dire ce qui va dispenser partout de la communication. De la communication plus que de l'information. Et à partir de ce moment-là, le critère d'avance-fraude, le critère qui a été celui des actionnaires de ces grandes sociétés, a été le critère, non pas de la qualité de l'information véhiculée par ces grands et nouveaux moyens technologiques, mais le critère de l'audience. Le critère de l'audience, qui permet d'avoir de la publicité. Et donc, les nouveaux moyens technologiques ont permis d'amuser ou de distraire les peuples, de les aider à consommer, ils ont été mis au service de la grande consommation, à travers la technologie et le communicatif, et un certain nombre, pour ne pas dire tous, les moyens de communication qui étaient branchés, eux, sur l'information dont j'ai dit le rôle important pour la vie du bien commun, pour le développement du bien commun, se sont trouvés affrontés à des problèmes de critères d'audience. Les critères d'audience, appelés autrement l'audimat, aujourd'hui commandent énormément la vie de la presse et des journalistes. Et faire de l'audience, c'est en effet, parce que faire tout ce que vous voyez sur un certain nombre de chaînes, c'est au prétexte de vous apporter de l'information, de vous donner des nouvelles à toute vitesse, sans faire de contexte, parce qu'on pense que vous vous ennuyez, donc il faut vous donner tout de suite des jeux, il faut vous donner tout de suite un peu de porno, si possible, en tout cas, tout ce qui ressemble, de vous donner du jeu, et puis, de ne pas vous ennuyer quand même avec toutes ces informations qui sont catastrophiques. Ou, si on doit vous en parler, d'utiliser le régime de l'émotion, et non pas le régime de l'explication. Et donc, vous savez mieux que moi, si vous regardez la télévision, c'est aussi bien que moi en tout cas, à quel point l'émotion compte la place des faits divers, dans des journaux, y compris des journaux des grandes chaînes. Et ne parlons pas des journaux de ce qu'on appelle l'information continue. Là. Citons les chaînes, un BFM, une télé. Alors qu'ils font, et qui vous apporteront bien sûr des nouvelles très vite, et qui se garderont bien de contextualiser, sinon, et vont le faire en partie, et vont le faire comment? Par des débats. Et par des débats comment? Pédagogique, on va vous expliquer. Bon, par des combats qu'on va faire, des débats qu'on va appeler de gauche et de gauche, combat de gauche et de droite, à la mort, quoi. Donc il s'agit de deux adversaires politiques qui ne s'écoutent pas une minute, mais qui sont, en effet, qui rentrent dans le vocabulaire d'agressivité, qui vont donc tout réduire à une espèce de match de boxe, dont les citoyens n'ont rien à faire, s'il vous intéresse, va vous retenir uniquement par les sentiments qu'il provoque en vous. Pas nourrir votre intelligence pour comprendre un problème. Voilà. Et donc, les médias, ils seront victimes, eux, de la crise de cette manière-là. Ce qui fait que, aujourd'hui, il y a des conséquences à ça, il y a des conséquences sur la vie même et le travail des journalistes. Ils ne sont pas seuls responsables de la situation. Parce qu'ils ont des patrons qui leur demandent, ils ont des patrons et des actionnaires qui leur demandent aussi de l'argent. Et pour avoir de l'audience, il faut aller vite. Il faut laisser du temps à la fin du journal, à un carrefour de publicité. Et puis il faut faire de l'émotion, il faut faire de l'immédiat et il faut faire de l'émotion. D'où les faits divers vont l'emporter, ce que je disais tout à l'heure, sur tout ce qui est un peu de l'explication d'une situation. Allez, dites-moi, combien avez-vous vu depuis 3 ans d'émissions explicatives sur le Moyen-Orient à la télévision? Et pourtant, ça change depuis. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'information internationale et j'ai créé un réseau d'acteurs de paix pour ça, pour l'Euro-Méditerranée. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué sur le Moyen-Orient? Dites-moi. Qu'est-ce qu'on vous a expliqué qui s'est passé après les printemps arabes? Qu'est-ce qu'on vous explique sur l'Arabie Saoudite et le Qatar? Qu'est-ce qu'on vous explique aujourd'hui sur la Syrie? C'est fini. Sauf le nombre de morts qui s'ajoute. Qu'est-ce qu'on vous explique sur la Libye? Dites-moi. Et ben voilà. Et puis tout d'un coup, vous vous trouvez face à Daesh. Parce que l'extrémisme musulman ou autre, juif ou catholique, chrétien, enfin peu importe. L'extrémisme tout court, on n'est pas obligé de se référer aux religions pour être extrémiste. Il sévit depuis longtemps. Sauf que ce n'était pas nous qui étions touchés. Là-bas en Afrique, les musulmans qui sont là où les armes circulent de la Libye au Mali depuis des mois et des mois, qu'est-ce qui est victime? Les musulmans ou les chrétiens du Mali. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Des 220 corps ou des 25 corps, je ne sais plus bien, égorgés en Libye, même le président de la République n'a pas osé présenter comme des portes. Laïcité oblige, paraît-il, celle laïcité. Citoyen égyptien au droit d'être corse, ils peuvent être cités comme égyptien corse, pourquoi pas? On dit bien des citoyens juifs, on dit bien des citoyens musulmans, on ne dit pas des citoyens corse. C'est des chrétiens? Bien, bizarre. Et puis, est-ce qu'on vous a peut-être expliqué qu'il serait peut-être possible dans ce pays qui a longtemps été le pays du droit d'asile de dépasser l'accueil de 500 pauvres malheureux maliens ou irakiens, peut-être d'aller jusqu'à 1000, pourquoi pas, est-ce que ça troublerait vraiment, à part Mme Marine Le Pen, qu'est-ce que ça troublerait? On a plus le sens de l'accueil de gens qui sont comme ça, au bord de, voilà, qui sont, dont les enfants vont être exécutés sous leurs yeux. Excusez-moi, mais nous aurions eu droit à un peu d'information quand même, non? Parce que le monde globalisé, c'est aussi le monde du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de l'Ukraine, du Brésil, de l'Argentine. Voilà, c'est tout ça. Si oui ou non nous allons vers la globalisation, et nous y allons, et nous y sommes, alors nous avons le droit d'avoir des nouvelles de ce nouveau monde. C'est difficile à faire. Ben oui, ben le métier journaliste, c'est pas un métier facile. Parce que c'est un métier qui demande du temps, mais on est dans l'immédiateté. C'est un métier qui demande de la culture, et la culture religieuse des journalistes est absolument nulle. Et pour aucune religion, à part les pauvres musulmans, n'aurait supporté la honte qu'a été le traitement de l'après 11 septembre par les journalistes occidentaux qui n'y connaissaient rien. Je me mets un peu en colère parce que je trouve que c'est vraiment lamentable, quoi. Et on est étonné après, vous comprenez? On est étonné, alors bon, on est étonné. Et puis on prêche l'unité nationale. Ah oui, c'est national. Oui, mais tout d'un coup la crise reprend le dessus, et puis, paf, les égaux, la crise en l'occurrence c'est les égaux. Donc, ben voilà, on va reparler n'importe comment, n'importe quoi, deux semaines après, à peine deux semaines, je ne sais plus, je pourrais plus. Voilà. Donc, les journalistes, en l'occurrence, là, j'en termine avec ça, c'est parti là, on peut y revenir après si vous voulez, mais... Pendant ce temps, la charte de l'UNESCO continue de valoir, que je sache, pour les directeurs des journaux et pour leurs journalistes. La charte de l'UNESCO qui nous demande, nous oblige, une charte éthique, nous oblige à donner des informations aux citoyens. Et aujourd'hui, les informations, c'est pas seulement les faits divers. Hein, c'est tout ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes. Voilà. Donc la crise aujourd'hui met en difficulté, au fond, ce fameux service du bien commun qui est, au fond, l'objectif, chacun encore à leur manière, des trois réalités dont nous parlons ce soir. Et, au fond, la crise les touche quasiment chacune, aussi ces trois réalités, non pas de la même manière, chacune selon son genre, mais elle touche gravement les trois. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut peut-être faire quelque chose, après tout. Alors, là, il y a une philosophe que je vous encourage à lire, à écouter, comme vous pouvez l'entendre, qui s'appelle Cynthia Fleury, qui a écrit un petit livre qui s'appelle La fin du courage. La fin du courage. Parce que c'est ça qui est en cause. Attends, est-ce qu'on va avoir le courage parmi les responsables politiques, parmi les responsables des médias, parmi les responsables religieux aussi, de monter au créneau? Peut-être d'expliquer, peut-être de se remettre en cause, de dire un peu, on va réfléchir, de la situation du monde, l'avenir des enfants, des petits-enfants, mais notre propre famille, là, peut-être après tout en cause, hein. Moi, je pense qu'il l'est. Donc, des Françaises.
Sauf que,
ben voilà, sans doute les individus que nous sommes, les citoyens que nous sommes, individus, aujourd'hui, plus que citoyens, sont-ils pas assez courageux? La fin du courage. Cynthia Fleury, à un moment donné, mais on est avec le monde politique, avec la façon des politiques, dans le monde de la contre-exemplarité, de la contre-exemplarité et de l'exemplarité, pardon. Et elle ajoute quelques pages plus loin, il ne faudrait pas croire que la contre-exemplarité du personnel politique délivre les citoyens de leur exemplarité nécessaire. Alors, donc nous sommes devant ce que Edgar Morin appelle une crise du monde, une crise de nos sociétés, une crise grave, dont il a beaucoup parlé, vous savez bien, et qu'il appelle à un moment donné, dans un de ses petits livres aussi, c'est pour ça que j'avais sorti tous mes livres, une crise de civilisation. Il a écrit un petit bouquin que je vous conseille aussi. C'est intéressant parce qu'il faut redonner un peu du courage à la besogne, hein, quand même. Pour une politique de civilisation. Il y est aidé souvent par différentes amies à lui, personnes, mais quelqu'un qui n'est pas de sa génération, qui est plus jeune, qui est un ami que je connais de longue date, qui s'appelle Patrick Vibray. Je vous conseille d'inviter un jour ici Patrick Vibray. Je travaille avec Edgar Morin. Et ils sont parmi d'autres initiatives. Des initiatives, par exemple, de M. Pierre Rosanvallon, dont vous avez entendu parler, ancien syndicaliste, qui aujourd'hui, qui travaille beaucoup sur l'avenir des démocraties. Et qui a créé une petite maison d'édition qui édite des petits livres qui s'appellent Les Invisibles. Les Invisibles, ce sont des citoyens qui font des choses, qui sont mis en route dans différents domaines. Et il y en a sans doute plus qu'on le pense. Et là aussi, la presse ne fait pas son travail. Parce que si on peut l'exonérer, de nous informer tous les jours, de ne pas nous informer suffisamment sur la vie du monde, on peut comprendre qu'à un moment donné, bon, de la fatigue de la part des téléspectateurs ou des citoyens qui font faire attention. Mais ça, qui est la vie d'un certain nombre de gens organisateurs, à travers des associations, à travers des groupes de citoyens qui font des choses, dans différents domaines, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'éducation, et qui sont soit tout seuls, soit à quelques-uns, soit à de plus nombreux. Ils existent, ils constituent un tissu nouveau. Ils constituent un tissu nouveau qu'il est important d'encourager en les connaissant mieux, d'encourager du côté des pouvoirs politiques, parce que ce sont des citoyens qui, en effet, prennent en compte le travail qu'ils ont à faire devant aussi les manques des uns et des autres, et qui sont le seul espoir que nous avons. Moi, je crois aujourd'hui que seule la société, les sociétés civiles, vont nous sortir de la difficulté. Quand on dit seul, on a aussi besoin du service des politiques, on a aussi besoin du service des médias. Bien entendu, avec tout ce que j'ai dit à leur propos au début de cet exposé, on comprend bien qu'il ne s'agit pas de les jeter dehors ou de les faire mourir définitivement. Il s'agit simplement de réveiller, et de se redresser. Alors, c'est de l'ordre de quoi? C'est de l'ordre de la révolution intérieure, si j'ose dire, mais qu'il faut à un moment donné qu'elle se traduise dans une forme de révolution non violente. De révolution qui essaie aussi, et qui ne peut pas se passer, et c'est ça l'intérêt de Morin, parce qu'il a travaillé beaucoup là-dessus, il ne peut pas se passer d'analyser ce qui se passe. Parce on ne peut pas faire naître quelque chose sans respecter la racine, sans y mettre, sans le mettre en terre suffisamment. Et le mettre en terre aujourd'hui, vous connaissez sans doute l'approche d'Edgar Morin depuis longtemps, c'est en effet face aux facilités de langage dans lesquelles nous sommes, les yaka successifs, face aux facilités de langage, qui sont, hélas, le propos de trop d'hommes politiques et aussi de trop de journalistes, facilités de langage. Il faut, et qui simplifient et qui, d'une certaine manière, développent aujourd'hui dans nos sociétés une sorte de manichéisme. Il faut entrer dans la complexité du réel, parce que le réel est compliqué. Voilà. Il est de plus en plus compliqué parce que nous mutons vite, vous comprenez? Nous mutons vite, nous sommes en train de passer d'une société à une autre, et puis on voit bien, entre générations, entre classes sociales, entre pays. Et donc, si nous ne mettons pas les distinctions dont elles ont besoin d'être, ou les choses ont besoin d'être distinguées, si nous ne prenons pas le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe dans tel ou tel domaine, pour ne pas faire des amalgames, si faciles à faire, et si populaires, si nous n'entrons pas un peu dans la complexité de ce qui, au fur et à mesure que, voilà, de l'éducation, la complexité que représente la vie internationale pour maintenir la paix, la complexité, aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout connaître dans le détail, mais pourquoi il est important que l'Iran retrouve sa place dans la vie internationale? Où ça se trouve la difficulté? Où est-elle? Pourquoi? Quelles sont les difficultés qu'il y a à faire exister des minorités religieuses ou culturelles, parce qu'il n'y a pas de minorités religieuses qui sont victimes de ce qui se passe. Comment les faire vivre dans des démocraties nouvelles? Comment vivre le pluralisme? Un pluralisme au service des droits de l'homme? Comment le faire vivre dans le monde d'aujourd'hui? Qu'il ne soit pas un pluralisme simplement où on est accolé les uns aux autres et on dit, on respecte le pluralisme. On respecte le pluralisme, ça veut dire on respecte aussi les points de vue des uns des autres dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des personnes. Si tout ça, on ne prend pas le temps, sans des moyens, disons, on manque du temps, c'est des moyens de le travailler un peu, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne des savants, ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on agisse et tout ça va ensemble. Voilà, qu'on ne soit pas endormi par la société par une société dont un certain nombre d'élites ne cherchent qu'à nous endormir. Vous savez, aujourd'hui, ça dépend aussi de ce qui vous allez dire. Enfin, grosso modo, si vous lisez un petit peu les expertises internationales d'un certain nombre de gens très bien, de diverses tendances, vous allez voir qu'il y a de l'inquiétude qui monte, sur la situation mondiale. Moi, j'ai entendu quelqu'un dont je ne citerai pas le nom nous dire le seul aujourd'hui leader mondial qui est susceptible de nous aider à avancer un peu, même si ça pousse un peu, ces formules fortes, c'est le pape. Et ce n'est pas son rôle direct. Quand il va voir l'Europe, à Strasbourg, il dit bien du bien de l'Europe, mais il dit aussi, réveillez-vous, l'Europe est fatiguée. Bon, l'Europe, c'est le continent de la Terre. Et si elle éclate, attention. Alors on dit, il n'éclate pas. Non, il n'éclatera pas. Comment il n'éclatera pas? Mais la paix n'est pas un bien éternel. Vous devriez le savoir. La paix n'est pas... Le siècle qui a précédé montre à quel point on s'est payé deux guerres mondiales et on les a à peine vues venir, en tout cas la deuxième. En tout cas, on n'a pas pris les moyens pour la paix. Donc, sans verser dans le pessimisme, au contraire, moi je pense que c'est comme ça que je vais terminer. Je pense que nous avons un devoir de lucidité. Voilà, nous avons un devoir de lucidité. Parce que nous avons les moyens, c'est vrai, nous avons les moyens. Nous avons les moyens dans l'éducation, nous avons les moyens dans notre vie, dans nos vies, dans les pas. par rapport à d'autres peuples, hein, qui sont malheureusement loin au niveau culturel aussi, qui sont loin au niveau social, mais qui sont aussi très loin au niveau culturel. Il n'y a pas assez d'écoles, il n'y a pas d'enseignants. Vous voyez bien, comment dans tout le Moyen-Orient, c'est ce qu'ils font dans le monde. Voilà, je ne parle pas de ceux qui sont infirmés, qui sont malades, qui perdent leurs parents. Vous savez que les Louvans sont en train d'accueillir encore, ça arrive de partout de la Syrie. Ils en sont à 1 million, bientôt 1 500 000. J'ai le Liban. Il faut le sauver. C'est un pays où il y a plein d'inquiétudes possibles parce qu'ils sont enfermés, mais c'est en même temps un pays message. C'est un pays démocratique, c'est un pays cultivé. Il y a plein d'universités partout au Liban. Chrétiennes et non chrétiennes, laïques, américaines. C'est un peuple qui aime vivre. C'est des malaises, c'est des gens, c'est un peuple commerçant, intelligent. Et qui pourrait nous donner là, qui peut, et qu'il faut soutenir. De manière, voilà. Mais, vous comprenez, et si nous ne rentrons pas un peu, selon nos envies, nos désirs, nos capacités, enfin, on peut s'intéresser à la question de la politique nationale, de la politique régionale, enfin, on dit la politique au sens noble du terme, celui de tout à l'heure, le bien commun, voilà, mais aussi international. Alors il faut travailler. Il faut travailler. Et il faut travailler, je pense, je terminerai par là, cela me permet de dire quelques mots du réseau que moi j'ai fondé quand j'ai quitté ma vie pour ma retraite. Moi je m'intéresse, excusez-moi de parler de moi, c'est simplement pour vous dire quelque chose qui me semble aujourd'hui important, qui est la lutte contre l'ignorance, précisément dans ce monde-là. Sortir de notre ignorance, de notre. Un réseau, nous avions emmené beaucoup de lecteurs hein, de nos journaux dans le Moyen-Orient, de Jérusalem, Damas et tout ça, partout. Et souvent, les gens revenaient et ils étaient très contents, croisière, voyage, tout, voyage, rencontre, on rencontrait les gens du pays. Et ils revenaient souvent avec le désir d'en savoir plus, parce qu'ils découvraient notre monde, qui était le monde oriental, avec lequel nous avons une longue histoire. Mais que nous connaissons mal, et l'histoire, et les gens qui vivent cette histoire, aujourd'hui encore. Et pourtant, vivent autour de la Méditerranée, comme nous, et dans des pays qui ont porté des civilisations. Donc, je me suis dit, dans le fond, ce serait bien, peut-être, on aurait déjà un premier public, première personne intéressée, peut-être, au fond, des voyageurs qui sont allés dans ces régions et qui veulent en savoir plus sur le plan religieux. Les chrétiens d'Orient, qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est simplement parce qu'ils habitent en Orient qu'on les appelle comme ça? Pas du tout. Parce que c'est nos ancêtres. Hein. Parce que c'est aussi des acteurs de paix là-bas. C'est des liens, c'est des ponts. Et que le jour où ils disparaissent, il n'y a plus de ponts. Ils ne sont pas là-bas simplement pour le plaisir du pape. Hein. Ou pour notre satisfaction de chrétiens, parce que comme ça, il y aura des chrétiens, mais non, c'est pas ça le problème. C'est un problème politique. Pour l'être politique, la présence des chrétiens du Moyen-Orient. L'être des ponts entre les différentes communautés, notamment entre la communauté juive et la communauté musulmane. Car ils sont des ponts depuis 2000 ans, ils l'ont été, même quand ils ont connu des moments difficiles, et ils en connaissent aujourd'hui. Et donc, il est important. Mais en même temps, on ne peut pas leur demander d'être courageux de leur force, hein, quand leurs enfants en ont marre de la guerre, marre de l'occupation, marre de l'humiliation qui correspond à l'occupation depuis 1967, avec des enfants en prison, sans droit international. Alors, tout ça, on a créé ce réseau d'acteurs de paix avec chrétiens de la Méditerranée, ça a fait changer de nom parce que c'est pas un réseau chrétien, c'est un peu les humanistes autour de la Méditerranée, les croyants, non-croyants. Ou des non-croyants qui se réclament des valeurs comme nous, des valeurs universelles de la justice, de la paix, de la tolérance. Et voilà, on a fait un site, on est maintenant, on touche à peu près 1000 personnes à part ce site. Je vous ai laissé quelques explications, et donc on a développé des colloques, on a fait un institut du monde arabe, on a fait un Strasbourg avec sur l'Europe et le conflit israélo-palestinien, on a fait une université d'hiver sur le Moyen-Orient entre guerre et paix, et des spécialistes. Et là, on a décidé, on va ouvrir notre site à un site pédagogique du savoir sur tout ce que nous avons dit. C'est-à-dire que systématiquement, à côté de l'actualité dont on parle à travers des tribunes, des témoignages et tout, on va avoir un espace important qui va expliquer le mieux possible, le plus simplement possible, un petit peu, voilà, ce que c'est qu'un chiite, ce que c'est qu'un sunnite, qu'est-ce que c'est qu'un juif orthodoxe, qu'est-ce que c'est qu'un sioniste chrétien, qu'est-ce que c'est que, voilà, comment vivre, pourquoi il y a tant d'églises chrétiennes au Moyen-Orient, comment elles sont nées, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien d'Orient, je sais pas, toutes sortes de choses, et puis toutes autres choses, comment ça se fait que ça va mal, qu'est-ce que ça veut dire la situation en Jordanie, sans nous. Un cycle du savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous nous y mettre. Il aurait été possible, là aussi, de nous y mettre au plus tôt et de ne pas être ignorant. Il avait été respecté la demande émise dans le rapport de Régis Debray, fait à la demande de M. Jospin et de M. Lang sur l'enseignement du fait religieux à l'école, rapport qui date du gouvernement Jospin. Donc c'est un gouvernement de gauche qui avait demandé un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Bon, entre la polémique, les lobbies qui s'y sont opposés, sur le nom de la laïcité, paraît-il, comme si le fait religieux était de l'ordre de la foi. Fait religieux, c'est un fait culturel. Le fait religieux n'a rien à voir avec la foi de chacun. Ça n'a rien à voir avec le prosélytisme. Rien. Ça a à voir avec la culture historique, philosophique. Bon, alors on a toujours ça, c'est l'enseignement catholique qui l'a fait le plus. Et pourtant, le pionnier de ça, il faut lui rendre hommage, et je suis content de citer son nom en finissant, est le recteur d'une académie franche qui s'appelle la vôtre, de Besançon. Monsieur le professeur Joutard, qui, il y a 25 ans, faisait déjà pour son académie des fiches sur les religions dans l'enseignement public. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait? Si on avait au moins un petit peu expliqué le fait religieux, on aurait compris qu'est-ce qui se passe depuis 15 ans, voilà, et qui aujourd'hui nous menace. On aurait compris. En tout cas, on aurait donné aux citoyens, les éléments, aux enfants aussi, les éléments de la compréhension. On l'a pas fait. Voilà, alors, si je termine par le dernier titre de ce jour-là, citoyens, impliquons-nous, prenons le pouvoir. Je vous remercie. Voilà.
Alors, on vous annonce 5 minutes de récré.